Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet peu ou encore mal connu, qui est celui des TDAH. Je vous présente Sylvain de Jeter.
Bonjour, bonjour.
Souffrant de troubles de l'attention et d'hyperactivité, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. Donc Sylvain est avec nous pour témoigner de son quotidien en tant qu'adulte. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter ?
Oui, me présenter, donc Sylvain de Jeter. J'ai 46 ans, j'habite dans le Lot, dans un domaine qui s'appelle le Mas des Papillons, où j'ai une activité de gîte et chambre d'hôte, qui permet de correspondre à pas mal de choses qui me... qui me caractérisent, parce qu'il faut forcément être partout à la fois quand quand t'as une maison avec des chambres d'hôte et des gîtes. Plein de boulot, plein de choses à faire. Donc ça sustente, je sais pas si c'est le bon mot, mais ce que mon corps, ce que mon cerveau a besoin de faire.
Alors pour résumer, pour les personnes qui n'auraient pas ou pas vraiment entendu parler des TDAH, il s'agit de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les personnes souffrant de troubles du déficit de l'attention ont énormément de mal à rester attentives, à rester concentré sur une tâche, à mener à terme des tâches plus ou moins complexes. Elles sont souvent stressées, souvent même impulsives. Comment est-ce que tu te retrouves dans cette définition ?
Stressé, impulsif, je ne sais pas si ça caractérise tous les TDA, j'en sais rien. En tout cas, moi...
Ça, c'est de la généralité. De la généralité.
Stressé, oui. Impulsif, ça peut m'arriver aussi, effectivement. Impulsif envers moi-même aussi, envers les autres. J'y travaille, ça aussi. Ça caractérise un petit peu ce que je vis. Ouais.
Dans ton vécu, concrètement, à partir de quel moment as-tu vraiment pris conscience de cette difficulté, justement, qui était le TDAH ?
Assez tardivement, parce que jusqu'à très peu, je dis très peu, je sais pas, j'ai 46 ans aujourd'hui, ça doit être entre 30 et 35 ans, je sais plus très bien. Mais avant, je savais pas ce que c'était le TDAH, on n'en parlait pas en France. Ma mère n'était pas du tout au courant de ce type de syndrome ou de symptôme, je sais pas comment on l'appelle. Ce type de maladie, je sais plus comment on appelle ça.
Plus un syndrome.
De syndrome, voilà. Donc, moi j'en ai pris conscience, entre 30 et 35 ans. Auparavant, je me disais que c'était comme ça, j'étais un nerveux, j'étais un quelqu'un qui avait besoin de se nourrir de plein de choses. Quand j'étais petit, j'ai forcément eu beaucoup de mal à l'école. Parce que j'arrivais pas à me concentrer, je papillonnais un peu sur tout. J'arrivais pas à apprendre mes leçons, parce que forcément, pour apprendre ses leçons, pour apprendre une leçon, il faut être attentif au prof, ce que je pouvais pas être. Et quand j'étais à la maison, apprendre une leçon, c'est se concentrer sur un truc pour l'apprendre, et c'était excessivement compliqué. Et ça a été aussi compliqué pour ma mère, parce qu'elle a essayé de me faire apprendre des poésies pendant des heures et des heures, et c'était mission impossible pour elle, quoi.
Il faut penser aussi que dans ces époques-là, il n'y avait pas d'informations sur les troubles du comportement. Et il était difficile de percevoir un enfant ou un adulte entre hyperactif classique et un hyperactif souffrant de troubles de l'attention bien conséquents.
Tout à fait. Alors tu vois, là, je t'ai écouté, mais je t'ai perdu en route.
C'est pas grave. Ça fait partie un petit peu du jeu, ça fait partie de l'émission aujourd'hui. On le sait autant toi que moi. L'idée, c'est de pouvoir témoigner pour des auditeurs qui auraient peut-être, soit dans leur entourage, soit eux-mêmes, des difficultés et qui peuvent se retrouver aussi dans ton témoignage.
Ouais. Tu vois, c'est un exercice qui est vraiment très compliqué pour moi. Être assis ici en face de quelqu'un et l'écouter, je peux vite me perdre, donc si la personne qui est en face de moi a un discours un petit peu trop long qui est pas hyper captivant pour moi, alors je dis pas que c'est pas la personne qui est pas captivante, c'est le discours où il y a quelque chose qui bouge, quelqu'un qui passe, etc. J'ai du mal à me concentrer sur ce que peut dire la personne, quoi.
Donc c'est pour ça, je précise, hein, je t'ai mis des feuilles et un crayon, comme ça si en plus t'as envie de t'occuper, de noter des choses, parce que je sais que t'as aussi besoin de noter les choses dans ton quotidien.
Ouais, alors j'ai surtout besoin, parce que comme je suis assis, heureusement vous m'avez donné une chaise qui bouge, et ça je kiffe trop, la chaise qui bouge, et j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les mains, parce que ça me permet de me concentrer un peu plus, si j'avais pas ça, je serais peut-être... déjà parti dans d'autres réflexions et pensées. Ouais.
En fait, c'est quoi le quotidien de quelqu'un qui est dans ce syndrome de trouble de l'attention? C'est quoi ton quotidien? Si tu pouvais le résumer, aujourd'hui.
C'est d'avoir 10 millions de pensées à la minute, c'est de commencer quelque chose et de ne pas le finir et de le finir juste après, et en même temps que je commence quelque chose, je commence autre chose. Je suis souvent sur... j'allais dire 5, 10, 15, 20 tâches à la fois. Je suis dans le bureau en train de travailler un peu. Alors c'est compliqué, justement, je te le disais tout à l'heure, de travailler, de faire l'administratif pour moi, parce qu'il faut vraiment beaucoup de concentration. Je suis au bureau en train d'essayer de me concentrer pour remplir un document administratif, par exemple. Je pense à où je passe la tête par la fenêtre, je vois une mauvaise herbe, je dis allez, hop, je sors, je prends la mauvaise herbe, enfin j'arrache la mauvaise herbe. Quand j'arrache la mauvaise herbe, je me dis mince, il faut que j'aille chercher quelque chose à l'atelier. J'arrive à l'atelier, mais en allant à l'atelier, je vois une pierre qui traîne. Donc je prends la pierre, je la range. Quand je la range, je vois autre chose qui me fait penser à un autre truc. Je dis ah tiens, il faudrait peut-être que je commence ça. Et en fait, j'ai fait plein de trucs sans jamais avoir atteint l'objectif initial, c'était de travailler sur l'administratif. Ça, c'est le quotidien, c'est mon quotidien de faire 36 millions de trucs à la fois. Alors, il y a plein de gens qui... Enfin, mon entourage, ils disent que je suis un peu... Forcément, c'est fatigant. À la fois, je suis proactif parce que je fais énormément de choses. C'est pas dire que je les finis pas. Je les finis toujours, mais pas au moment où je les ai commencés.
Alors, en fait, la question, ça serait... C'est toi, comment tu le gères, finalement, émotionnellement, intérieurement? De ne pas avoir peut-être finalisé la démarche initiale, est-ce que toi ça te dérange et tu cherches à finaliser quelque chose, ou au contraire ça te sort de l'esprit parce que tu es multipensée et dans ton arborescence justement de réflexion, ça n'apparaît plus dans la réalisation?
Non, enfin clairement ça m'énerve de ne pas l'avoir fini. Comme j'ai toujours des millions de pensées, quand j'ai fini quelque chose, ouf, je le mets de côté. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris beaucoup. Alors quand je dis écrire, c'est toutes mes tâches que j'ai à faire. Donc je suis monsieur note et tâches, donc j'ai 40 cahiers à la maison, 40 feuilles, avec aujourd'hui je dois faire ça, 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 ça et ça et ça. Au final, mes journées, elles ressemblent jamais à ce que j'ai écrit, parce que j'ai commencé ça, j'avais ça à faire, mais il y a un truc qui s'est rajouté, parce que je l'ai rajouté, hein, pas parce qu'on me l'a rajouté. Et du coup, je fais... c'était quoi la question déjà?
C'est pas grave, c'était pour savoir si toi ça te perturbait de ne pas finaliser quelque chose.
Ça me perturbe parce que tant que c'est pas fini, c'est encore dans un coin de ma tête. Et quand je l'ai enlevé, j'ai l'impression de m'être enlevé un petit poids. Mais sauf que des petits poids, je m'en rajoute plein, tout le temps. Donc c'est un truc perpétuel, il n'y a jamais de fin. Quoi.
C'est un peu de la pression quand même, quotidienne.
Ouais, c'est de la pression, ouais. Mais à l'inverse, je sais pas comment je ferais si je n'avais pas ça à faire. Parce que, par exemple, j'ai déjà essayé de me poser, de lire, par exemple. Et c'est quelque chose qui est impossible pour moi, je n'ai jamais lu. Alors, je sais lire, hein, quand je dis aux gens que je sais pas lire, et ils me regardent tous avec des grands yeux. Bien sûr que je sais lire, mais j'arrive pas à me poser et à lire un livre. Parce que pendant que je lis le livre, à la fin de la première page... Mon cerveau y est parti 50 fois, et en fait j'ai relu la première page, je l'ai relu 5 fois parce que je suis toujours parti, quoi. J'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis. Donc c'est compliqué, quoi.
Alors au niveau des études médicales, il est constaté qu'il n'y a pas de réelle déficience au niveau du cerveau, donc on ne peut pas le classifier dans les maladies, à proprement parler. Aujourd'hui, il existe des solutions dites médicamenteuses. Est-ce que, justement, c'est quelque chose auquel, toi, tu as pensé pour au moins t'alléger dans ton quotidien ou pas?
Alors, avant, forcément, avant de prendre conscience que j'avais ce trouble, j'y pensais pas. Certainement que ma mère a dû y penser à un moment parce que. Enfin, peut-être pas dans ces termes-là, peut-être. Enfin, si, je me souviens qu'elle. Ah, bah si, oui, là, je me souviens maintenant qu'elle me donnait des trucs à l'époque, ça s'appelait euphytose, c'était des trucs à base de plantes pour me calmer, que je sois attentif, etc. Aujourd'hui. Enfin, depuis que j'ai conscience de ça, j'y ai pensé plein de fois, mais je suis un peu embêté, j'ai du mal à passer le pas. J'y pense, parce que parfois c'est vraiment compliqué. Alors ce qui est compliqué, c'est pas le trouble en lui-même, c'est la fatigue qui en découle, parce que forcément, quand ton cerveau est tout le temps en ébullition, bah, tu dors pas beaucoup, tu te fatigues tout le temps, donc je suis en fait toujours fatigué. Et très souvent, je me demande, mais comment tu fonctionnes, comment tu fais pour ne pas t'écrouler. Tout à l'heure, tu me posais justement cette question, est-ce que tu as des moments de la journée où tu es exténué? Ouais, alors, il y a des moments où je suis exténué, je vais me poser 5 minutes, parce que là, j'en peux plus, mon corps, il... Mais le fait parfois d'avoir de nouveau une nouvelle pensée, d'un truc à faire... Bah bing, comme un robot, je me relève et je retrouve un semblant d'énergie et j'y vais, quoi. Jusqu'à le prochain événement ou prochain moment où je serai de nouveau fatigué. Et donc du coup, oui, parce que je reviens à ce que la question initiale, c'était les cachets. J'y ai plusieurs fois pensé. Je suis vraiment très embêté par rapport à ça parce que j'ai pas envie d'être addict. Donc je l'ai pas fait. Très souvent je me dis que ça pourrait être bien pour moi et pour les autres à côté. Mais j'arrive pas à m'y résoudre. De prendre un cachet. Alors j'ai déjà essayé aussi tout ce qui est plantes, tout ce qui est infusion, machin, tout ça pour que. Et bon, clairement ça marche pas. Seul moment qui marche, c'est quand je le bois. Donc là, pendant que je bois mon infusion, bah, je suis 10 secondes en train de prendre un petit moment pour moi, quoi. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas. En fait, je me pose la question parce que depuis que j'ai découvert ce trouble, bizarrement, ça ne fait qu'empirer.
Avant, tu n'avais pas cette perception-là.
Non, je savais pas ce que c'était. Alors ça, pour le coup, ça m'a fait un grand bien de découvrir que j'étais TDA, parce que j'ai enfin mis des mots sur mes mots. Pourquoi j'arrive pas à me concentrer? Pourquoi je sais pas lire un truc? Tous les autres ils savent le faire. Tous les autres ils savent se poser, dessiner. Moi je savais pas faire, donc je me trouvais étrange par rapport aux autres.
Et les réactions, en fait, on va revenir quelques années en arrière, ton enfance, ton adolescence, c'est-à-dire que tu souffrais de cette activité de difficulté de concentration, donc déficitaire de l'attention, hein, pour utiliser les mots adaptés. Quel était le comportement, finalement, de l'entourage proche? Je pense à tes parents, je pense à tes camarades à l'école, et les enseignants aussi. Comment tu le vivais, ça?
Alors, pour mes parents, enfin, mon père est mort, j'étais jeune, donc je me souviens plus avant, j'avais 12 ans quand il est décédé. Ma mère, les moments où... Les fois où je me... Enfin, quand je repense à mon enfance, je vois des réflexions de ma mère qui me disait, avec des mots en ch'ti, que j'arrivais pas à bouger. Alors, je peux le dire,
oui,
le mot
oui,
ch'ti.
Vas-y, vas-y, je t'en prie.
Elle me disait, t'as des vers à ton cul. Ça veut dire que t'as des vers à ton cul. C'est génial, ça a super bien passé, ça.
Ouais. Oui, il n'y a pas de souci,
Et donc je l'ai très, de très nombreuses fois entendu. Mais forcément, comme tu sais pas que tu es atteint de quelques troubles que ce soit, tu te dis, bon voilà, ben, j'ai des. Voilà, et franchement, ça m'a libéré de savoir que j'avais ce trouble. Mais ma mère, je pense qu'elle faisait avec, mis à part les difficultés que j'avais à l'école, de concentration, d'apprentissage, c'était pas trop un problème pour elle. Enfin, il me semble. Après, effectivement, je pense que. Il faudrait poser la question à ma mère et maintenant à mon entourage. Depuis que je sais que ça, je sais que j'ai ce trouble, on en parle souvent avec mon épouse et mes enfants, je ne me rendais pas compte que c'était aussi compliqué de me suivre, en fait. Parce que je parle d'un truc où quand les gens me disent un truc, j'ai déjà compris et fini ce qu'ils voulaient dire, donc du coup, je suis déjà passé à autre chose. Quand je dis quelque chose Je suis déjà... mon idée, entre l'idée que j'ai et les mots qui sortent, il y a un gros décalage, parce que l'idée, pour moi, je te dis un truc, t'es censé avoir compris avant même que... pour mon épouse et mes enfants, ça n'a pas toujours dû être facile. Mais en fait, je pense que c'est avant toute chose, c'est d'abord pour moi que c'est pas facile.
Oui, c'est ça.
De vivre avec ça, c'est... Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et après, oui, parce que tu me demandais mon entourage. Donc, ma maman, effectivement, quand j'étais jeune. Et après, les camarades, tout ça, je me souviens plus très bien. Je pense que pour certains, ça devait aussi être pas mal, parce que comme j'étais déjà hyperactif... quand il s'agissait de faire des conneries, tout ça, j'étais là. Et puis donc ça faisait bien marrer tout le monde. Et puis quand il fallait organiser des soirées, des trucs comme ça, quand on était à la fac, je prenais vite les choses en main. Et puis c'était fait en deux temps, trois mouvements, alors qu'il aurait peut-être mis pas mal de temps, quoi. Mais après, les amis proches, ouais, parfois ça a été compliqué, et pour eux et pour moi, mais surtout pour moi. Parce que comme je suis exigeant aussi, je suis avant tout exigeant envers moi-même, je suis aussi exigeant envers les autres. Comme je vais toujours très vite, c'est comme si j'avais envie que les autres aillent aussi vite que moi. Donc ça m'a agacé plein de fois que les gens ils aillent pas vite. Donc quand on fait un truc, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose, ça m'énerve parce que moi je l'aurais déjà fini, quoi. Et ça, ouais, j'ai dû le montrer aussi à mes amis plein de fois. Donc ouais, ça a été à mon, enfin, je dis pas à mon avis. On en a déjà parlé avec certains de mes amis. Ça a été un peu compliqué, ça, ouais. Avant que je me rende compte du trouble. Et franchement, après, ça m'a quand même libéré. Puis c'est quelque chose que je peux expliquer aussi. Parce que, tu vois, depuis tout à l'heure, on est à deux. Là, je bouge de tous les côtés. Oui. Je regarde partout.
Je confirme.
Et encore, j'essaie de me concentrer un maximum. Là, mais... Et ça, c'est compliqué. Quand tu connais les gens, quand ils te connaissent, ils apprennent à vivre avec ça. Quand tu ne connais pas les gens, quand eux, plutôt, ne te connaissent pas, ils ont le sentiment que ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas le cas du tout. Je les écoute, mais en même temps, je regarde le mur. Là, tu vois, il y a un super beau mur rejointoyé. Il me plaît, je vais le regarder. D'ailleurs, j'ai regardé la bibliothèque qui était là. Tous les livres, je les ai quasiment photographiés. Il y en a quelques-uns que j'ai jamais lus, mais que j'ai. Je fais toujours 36 000 trucs à la fois. Donc là, les gens, ils ont l'impression que je les écoute pas, que ça m'intéresse pas, alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout, quoi.
Oui, c'est très difficile, en effet, de pouvoir être dans une relation quand on a le sentiment, finalement, de gêner l'autre, en fait. Dans cette action, c'est ça?
Ouais, je...
Je sais pas, c'est une question que je te pose.
Je sais pas ce que... Que ça gêne...
Oui,
que ça...
toi ou l'autre, finalement. C'est-à-dire que dans la relation, il y a une méconnaissance de l'autre, peut-être, qui va faire que si tu bouges, ce n'est pas que tu n'es pas présent, c'est que tu penses à de multiples choses.
Exactement, ouais.
Donc, si on te méconnaît, ou si on ne prend pas le temps de prêter attention entièrement à toi, finalement, on est sur un jugement, on s'arrête à quelque chose, et ça peut créer un fossé.
Tout à fait. Tu vois, pendant que tu parlais, là, j'étais en train de... Je me voyais... Forcément, j'étais sur plein d'autres idées à la fois. Et en même temps, et je me voyais très souvent avec mes clients, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai des gîtes, et donc je reçois beaucoup de clients. C'est très compliqué pour moi parce que j'adore ça, j'adore le contact, je suis hyper sociable. Par contre, je peux pas toujours expliquer ça aux clients. Maintenant, c'est plus facile, je l'explique, pas dans toutes les conversations, parce que je ne vais pas non plus mettre un écriteau, attention, TDAH en vue ou un truc comme ça. Mais c'est compliqué parfois parce que tu parles à des clients, tu as envie de leur parler, etc. Mais au bout de 5 minutes... Parfois, mon corps, il a besoin de faire autre chose. Et puis, quand je tombe sur quelqu'un qui adore parler, et là, c'est hyper compliqué pour moi, parce que je dois me concentrer à fond. Mais il y a un moment où mon cerveau, il part. Et là, bizarrement, je suis plus fatigué que si j'avais soulevé 40 cailloux, quoi. Enfin, 40 pierres.
Cerveau est un muscle, de toute façon.
Et me concentrer à écouter la personne en face de moi... Et parfois, c'est pas forcément hyper intéressant. Enfin, pas que la personne n'est pas intéressante, mais moi, par rapport à mon trouble, forcément, j'écoute ça, c'est peut-être intéressant, sauf que je suis sur 36 trucs à la fois. Donc, les trucs auxquels je pense, ils sont forcément plus intéressants, parce qu'il faut que je les fasse tout de suite. Donc, ouais, c'est avec les gens, ça, c'est parfois un peu compliqué. Je pense plus pour moi, au final, que pour eux.
Est-ce qu'au cours des années, tu as mis des choses en place justement pour fluidifier tout ça, ou peut-être un moment de ta vie par exemple, tu as mis des processus en place pour être plus dans l'accessibilité?
Franchement, je sais pas.
Plus fluide, moins contraignant finalement.
Non, enfin aujourd'hui en fait j'ai le sentiment que c'est de plus en plus contraignant. Et même en ayant mis des mots sur ce trouble, c'est pas ça qui fait que ça m'a aidé psychologiquement à dire enfin je comprends mieux pourquoi je suis comme ça, mais c'est pas ce qui m'a sauvé, c'est pas ce qui m'a guéri quoi. Et au contraire, en vieillissant, j'ai le sentiment d'être de plus en plus hyperactif et de moins en moins attentionné. Alors attentionné dans le sens où manque d'attention, pas manque d'attention aux gens tout ça, hein, mais manque d'attention à ce que je fais. Franchement, j'ai le sentiment que ça va être de pire en pire.
Alors, tu parlais de sentiment de pouvoir de moins en moins porter attention à ce que tu fais. Souvent, on reconnaît dans les personnes souffrant de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, on va dire des accidents, beaucoup d'accidents.
Ah, c'est vrai,
comment
c'est...
toi tu te places par rapport à ça? Est-ce que comme ces personnes, tu te fais mal, tu te cognes, tu te casses?
Alors effectivement, je pourrais écrire un roman sur toutes tous les accidents que j'ai pu avoir et tous les conneries que j'ai pu faire. Alors pendant longtemps, je me disais que ça n'avait aucun rapport parce que voilà, les accidents de la route, les accidents de bricolage, les accidents de la vie, etc. Je pensais pas que ça pouvait avoir un lien, mais c'est il y a quelques temps, j'avais écouté une émission sur ce trouble et effectivement, il disait que les gens atteints de ce trouble-là avaient 13 ans de moins d'existence d'existence de vie, j'allais dire, c'est pas le bon terme.
D'espérance.
Voilà, espérance de vie. J'étais déjà parti, tu vois, sur autre chose. Et ça m'a fait prendre conscience de tous les accidents que j'ai pu avoir. Alors, j'ai toujours eu une bonne étoile parce que j'ai eu de gros accidents, hein. J'ai des vis un peu partout, des accidents de la route, des accidents de la vie. Et au quotidien, ça m'arrive, parce que comme je fais 36 000 trucs à la fois, que je suis pas concentré sur ce que je fais, forcément, je te disais tout à l'heure, par rapport à mon activité, je bricole beaucoup. Et quand je te dis bricolage, c'est du gros, ça peut être du gros bricolage. Je fais attention à rien, comme je veux faire tout vite. Tu vois, tout à l'heure, avant de venir, je jouais avec de l'acide chlorhydrique parce que j'avais décidé d'enlever de la colle de carrelage et du ciment sur un de mes carrelages. Et ben, je veux le faire vite, donc je prends pas la précaution de me mettre des gants, un masque, des lunettes. Voilà. Et donc, du coup, il m'est rien arrivé, mais ça a souvent été le cas. Il s'est marqué quelque chose. Tu vois, j'ai perdu
le fil.
Le fil, ouais.
Concrètement, c'est...
Ah oui, les accidents.
Quel est l'accident le plus identifiable que tu pourrais avoir en mémoire, par exemple?
Alors, j'ai eu plein d'accidents de la route, mais je pense pas que je puisse mettre ça sur le dos du TDA. J'ai eu beaucoup d'accidents de bricolage. Une fois, je me suis pris une bassine, parce que une bassine de... Alors, c'était pas de l'acide, c'était... Enfin, un produit chimique que j'utilisais... Bon, j'avais vu ça, j'ai utilisé pour décaper, avec la lessive de soude, voilà, pour décaper une porte. Et puis, j'ai pas pris précaution, je suis allé vite, je suis monté à l'échelle avec ce truc, avec cette bassine, puis avec le pinceau. Et puis, en fait, le truc est tombé sur moi, je m'en suis mis partout sur les habits, tout ça. Bon, voilà, bon, il m'est rien arrivé non plus, ça a brûlé. J'ai appelé le centre anti-poison, etc. Ils m'ont dit ce qu'il fallait faire. Mais ça arrive très souvent. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Oui, je prends le tracteur tondeuse, je vais hyper vite. Du coup, comme je veux avoir fini avant de commencer, parce que j'ai déjà en tête de faire autre chose, je regarde pas ce que je fais. Bah, tout à l'heure, pas tout à l'heure, hier après-midi, je prends la tondeuse, j'ai coupé un fil électrique, parce que je savais qu'il était là. Trois fois, je suis passé au-dessus, avec la tondeuse. Et puis, c'est un fil électrique pour l'enclos des ânes. Et puis, la quatrième ou la cinquième fois, j'étais déjà parti dans d'autres pensées, je suis passé dessus. Donc, heureusement, je suis pas mort électrocuté. Mais ouais, ça, c'est des exemples presque quotidiens. Il n'y a pas une journée où je fais pas une connerie liée à mon attention. Je prends une pierre, je me la mets sur le pied parce que pendant que je la porte, je vois un autre truc. Je la mets sur ma hanche pour pouvoir prendre le truc ou enlever une mauvaise herbe. Et puis, bing, le truc qui tombe sur mon pied. Ouais, c'est constant.
C'est de la mise en danger perpétuelle, en fait. Inconsciente,
parce que j'ai vraiment, à chaque fois que je le fais, alors pas tout le temps, c'est pas vrai, j'allais dire une bêtise, mais c'est ça qui est dingue, c'est que très souvent, je fais les choses en voyant pas de danger. Mmh. Mais à côté de ça, il y a plein de fois où je me mets en danger en le sachant, et je le vois, ce que je fais. Mais c'est pas pour autant que j'arrête ce que je fais, et puis je prends des précautions, je continue. Je peux scier un truc avec une tronçonneuse. Je m'arrête un moment, je dis putain, t'es con, il faut même que tu te protèges quand même, fais pas ça en short et en tongs, quoi. Il y en a pour 5 minutes, je vais pas, il va rien m'arriver. Et en fait, bon, très souvent, il m'arrive des trucs, quoi. J'étais loin, hein, non ?
Non, mais c'est toujours intéressant, parce qu'en même temps, l'objectif, c'est que tu témoignes de ce que tu vis.
C'est presque contagieux, le trouble de l'attention.
Non, j'étais attentive à ce que tu me disais. J'étais vraiment là. Quand on a préparé cette émission, tu as utilisé des mots forts, tu as utilisé des mots lourds, donc qui avaient surtout attrait à une impression d'être dans une camisole par rapport à ce que tu vivais. Est-ce que tu veux en parler un peu ou pas ?
Ouais, d'ailleurs, quand tu le dis, ça me touche toujours autant. Le fait que je l'ai dit quand on a préparé l'émission, d'ailleurs, j'y ai repensé après, hein, pourquoi j'ai employé ce mot qui est très fort. Et là, quand tu me le dis, ouais, ça me touche et j'ai un peu de chair de poule, là, parce que c'est compliqué de sortir de ça, quoi. T'as l'impression d'être dans une pièce capitonnée où tu peux pas sortir, d'être dans une camisole. Bon, j'ai employé ce terme la fois dernière, et je pense que ça résume bien ce que je vis au quotidien, quoi. De pas pouvoir sortir de ça, d'être toujours dans les mêmes schémas perpétuels, d'avoir envie de sortir de ça, de se poser, de... J'aimerais bien être comme les autres. J'ai des transats partout chez moi, pour mes clients. Ben, j'aimerais bien me poser sur un transat et puis y lire. Ben, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Je n'arrive pas à me poser, j'arrive pas... alors les cachets, on en parlait tout à l'heure, pour l'instant, je n'y suis pas passé parce que j'ai pas envie. Ce qui marche un peu, c'est la relaxation, la méditation. J'essaie de faire ça quand je peux, un quart d'heure par jour, pendant un quart d'heure, me poser. Ça marche pas mal, mais je peux pas le faire plus parce que, ouais, au bout d'un quart d'heure, mon cerveau il se remet en branle et puis je dois faire plein de trucs, quoi. Donc, la camisole, je te dis, j'y ai repensé pas mal de temps après qu'on en ait parlé parce que ça reflète vraiment ce que je vis, quoi.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, bon, on va être un peu en diagonale, est-ce que ça t'est déjà arrivé que l'on te reproche justement cette hyperactivité, mais également cette difficulté d'attention ? Quand on te le reproche, c'est que ça t'intruse émotionnellement ou directement, ou pas ?
Oui, oui, c'est surtout dans le contexte familial, quoi. Ouais, on me reproche... Alors, c'est pas vraiment des reproches, en tout cas, avant qu'on mette des mots là-dessus... Ça pouvait l'être des reproches, mais je pense que je suis compliqué à suivre aussi, comme je vais toujours trop vite. Alors, je vais toujours trop vite dans les faits, mais aussi dans la matière, mais mentalement aussi, je vais vite tout le temps. Quand je pense à un truc, j'ai déjà le tenant, les aboutissants, tout est fait déjà dans ma tête. Il y a une arborescence qui se met en place, clac, tac, 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 tac. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose, me parle d'un projet... Et ben avant qu'il ait terminé de me parler de son projet, même au tout début, j'ai déjà son projet, il est déjà fait dans ma tête, quoi. Quand j'étais plus jeune, ça pouvait être par exemple de dire ah ben tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Sauf que les gens, ils ont pas envie d'entendre ça. Ils ont envie de faire leur projet. Ils ont pas envie d'entendre quelqu'un de moralisateur et qui lui dise bah tu devrais faire comme ci, comme ça. Et donc ça l'a été avec l'entourage, surtout avec les gens dans mon entourage proche, quoi. Ma femme, mes enfants et ma maman qui par exemple me dit tout le temps qu'elle me voit en coup de vent. Alors elle habite chez nous, mais enfin chez nous dans notre propriété, et je la vois 20 fois par jour, mais quand je passe je peux pas me poser 5 minutes pour parler, quoi. Je passe hop, en coup de vent, bonjour, au revoir, clac, j'y retourne 2 heures après parce que j'ai pensé un truc. Donc ça peut être compliqué pour ma mère, par exemple. Pour ma femme et mes enfants, je pense que ça a été... ça a été compliqué de me suivre et et d'être avec quelqu'un qui est toujours à 100 000 volts tout le temps, qui pense toujours à 36 000 trucs à la fois, qui a fini le truc avant de le commencer, peut-être que ça n'a... Je prends conscience aussi, tu vois, en parlant, donc c'est... Peut-être que j'ai pas... je leur ai pas laissé suffisamment la place aussi, parce que comme je vais toujours trop vite, quand ils m'expliquent quelque chose, si j'ai déjà fini avant qu'ils finissent leurs propos, ça leur laisse pas la place de s'exprimer et de me parler tout simplement, quoi.
D'accord. Donc là, en effet, on sent hein, dans tes paroles, on sent dans tes mots beaucoup d'émotions de toute façon. Hein, déjà, il y a beaucoup de sincérité, je tiens vraiment à le soulever. Également, bon, souvent, on attend des personnes qui sont en difficulté d'attention. Ben, on l'entend souvent. Hein. Allez, prends 5 minutes, tu peux quand même te concentrer ou fais attention, etc. Là, dans ton témoignage, on voit très bien que quand on est dans cette souffrance-là, c'est pas dire « concentre-toi » qui va faire que ça va résoudre le problème. Au contraire, il est possible que ça génère autre chose.
Complètement.
Donc ça peut générer une angoisse, un stress. Et dans ces cas-là, comment ça se traduit pour toi ?
Alors, je dirais aujourd'hui, ça m'arrive moins parce que je suis adulte. Donc les gens peuvent... Enfin, c'est pas qu'ils osent pas, mais... Il y a quand même très peu de personnes qui me disent « bon, maintenant c'est bon, tu vas arrêter ». Mais par contre, quand j'étais petit, moi, j'ai beaucoup souffert de ça, parce que les instits, les profs, ils ne pouvaient pas comprendre, puisque déjà à l'époque, on ne parlait pas de ce trouble. Mmh. Il était méconnu, inconnu ou méconnu, je pense plutôt méconnu, parce qu'il devait certainement déjà exister. Les profs, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je ne pouvais pas me concentrer 5 minutes sur la lecture d'un passage de livre, sur... Et donc ça, je l'ai entendu mais des milliers de fois. Mais concentre-toi. Prends 5 minutes. Enfin, je sais pas, tous ces mots, là, je les ai entendus des milliers de fois. Aujourd'hui, je peux l'entendre parce que dans mon entourage, je l'entends, mais parce qu'ils ont aussi envie pour moi que je prenne un peu de temps pour moi, que je me calme, que je souffle un peu, que je sois moins fatigué. Mais c'est surtout quand j'étais petit, j'ai constamment entendu ça.
Ça va ?
Ouais.
Je te vois tripoter. Alors, Sylvain a une paille dans les mains. Et la paille n'a plus de nom que le nom, en fait.
Mais heureusement, je l'ai, cette paille. Ça me permet de me concentrer. Tu vois, on est dans un studio là où... pour moi, c'est hyper compliqué de rester attentif comme ça, sans pouvoir bouger, sans pouvoir faire autre chose. Donc, du coup, cette paille, depuis tout à l'heure, je m'excite dessus là, pour pouvoir me... essayer de me concentrer un maximum.
Donc c'est un bon outil, en fait.
Tout à fait. Et ça peut être une paille, ça peut être un stylo, ça peut être... Tout à l'heure, on me disait pourquoi... Non, c'est moi qui vous disais tout à l'heure que je suis toujours en train de bouger. Alors, tu sais, mes jambes, maintenant, elles bougent tout le temps. Alors, effectivement, il y a des gens qui disent, bah ouais, mais ça, moi, ça m'arrive. Moi, c'est pas que ça m'arrive, c'est continuel. Mes jambes, elles bougent tout le temps. Mais je pense que c'est pour canaliser, pour me concentrer un minimum sur ce que je fais.
Le corps a besoin aussi de signaler quelque chose,
ouais.
Cette transmission-là. On va arriver à la fin de cette émission, progressivement.
Déjà,
voilà, déjà, comme quoi.
Là, je pensais pas qu'on serait arrivé aussi vite, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à dire, je pense.
Il y a des choses à dire et je pense qu'on pourrait largement en dire encore plus.
Tout à fait.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que, comme on l'a fait à la préparation et avec la même spontanéité qui te caractérise, c'est que tu apportes aussi ce mot de la fin à toutes ces personnes qui ont ou qui ont dans leur entourage des souffrances, de troubles de l'attention, des troubles de l'hyperactivité, des parents... qui ont un enfant potentiellement en TDAH. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes aujourd'hui, avec ton recul, avec ton vécu, avec ce que tu es là aujourd'hui ?
La chose que j'ai envie de dire qui me semble importante, c'est pour les enfants, parce que forcément j'en ai souffert, ce que je te disais tout à l'heure. J'ai envie de dire à ces enfants, à partir du moment où ils ont conscience de ce trouble-là, qu'ils ne s'inquiètent pas, parce qu'en fait... on peut les mettre dans des catégories, on peut leur dire « Oh, t'es nul à l'école, tu t'arriveras jamais à rien », ça aussi, je l'ai entendu des milliers de fois, quoi. Sauf que non, moi j'ai réussi plein de choses dans ma vie, parce que quand t'es hyperactif, tu peux aussi faire plein de choses, et j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai beaucoup changé de boulot, beaucoup changé de création, j'ai toujours créé plein de trucs, des boîtes, des entreprises, etc. Et ça, c'est une grosse chance, donc ils ne s'inquiètent pas, moi je pense souvent à ces enfants comme moi, là, qui se posaient plein de questions sur ce qu'ils allaient faire plus tard parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. Et moi, j'ai envie de leur dire, vous inquiétez pas, vous allez arriver à faire plein de choses, vous allez faire plein de choses.
Oh, très beau témoignage, très 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 beau.
Merci
infiniment, Sylvain. C'est vrai qu'on est contraint par le temps également. Il y aurait tellement de choses à dire et je suis convaincue qu'il est toujours possible que tu reviennes un autre moment
pour
suivre un petit peu tout ça et échanger peut-être avec des questions qui pourraient à un moment donné se poser.
Du moment que tu me donnes une paille, tu vois, moi je suis partant pour
tout. Je peux te donner toutes les pailles que tu veux, si tu veux. C'était Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Un grand merci à Sylvain pour son témoignage sincère et où il a mis tout son cœur, toute son intégrité. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver Sylvain sur sa page Facebook, Sylvain de Jeter, mais également au Mois des Papillons.
C'est ça, oui. Hein.
Quant à nous, nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de Fenêtre sur soi et comme toujours sur la page Facebook du cabinet Claude Duras et également en nouveauté la page Facebook Fenêtre sur soi. Je vous souhaite du soleil dans votre tête, des sourires dans votre cœur. Merci Sylvain, merci.
Je t'en prie, merci à toi.
À très vite, au revoir.
Moi je marchais les yeux par terre, toi t'avais toujours le nez en l'air, et c'est comme ça qu'on s'est connus. On avait chacun sa guitare, on n'était pas loin d'une gare, c'est le hasard qui l'a voulu. Et tu m'as dit quand leurs ailes sont mortes, les papillons vont où le vent les porte, on a pris le premier chemin venu. Et quand la nuit est tombé sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville, on n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On a traversé les semaines comme de vraies fêtes foraines sans même penser au retour. S'est perdu dans les nuages, comme les oiseaux de passage, à suivre les filles d'un jour. Et pour ne pas que des fous nous renversent, on prenait les chemins de traverse, même s'ils ne sont jamais les plus courts. Et quand la nuit tombait sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville, on entend et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quelquefois je me souviens de ceux qui nous ont lâché les chiens et jeté des pierres au visage. Ils n'ont rien empêché quand même, puisque le seul métier qu'on aime, c'est la bohème et le voyage. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville, on n'entendra que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville, on entendra et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile.